Je voulais être chimiste, inventer des produits, mélanger des produits pour que ça produise d'autres choses. Les développeurs, qu'ils soient front, qu'ils soient back, enfin, qu'ils soient le développeur, lui, son objectif, c'est de trouver la solution. Sans laboratoire, un développeur peut créer. L'utilisateur qui est devant, il ne va pas penser comme toi, il ne va pas réaliser que ce bouton-là permet de déclencher telle action. Toi, tu le sais parce que c'est toi qui l'as codé. J'aime beaucoup manipuler les données, interconnecter les systèmes, parce que au final, c'est ce que fait un peu le développeur back-end, c'est faire une machine parler à l'autre.
Aïe, Diosa! Diosa encore une fois! One more time again!
Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Co-fondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débats, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Discover. La série Discover est une mini-série qui va nous présenter les métiers du digital et du web. Aujourd'hui, nous allons recevoir Raphaël Privat, qui est développeur de façon générale, mais surtout développeur back-end, et qui va nous expliquer, nous présenter, en fait, en quoi consiste son métier de développeur back-end. Raphaël, bonjour.
Bonjour, Gérald.
Comment vas-tu ce matin?
Tranquillement, ça va.
Raphaël, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et puis raconter en quoi consiste le métier de développeur pour toi?
Alors, bonjour à tous. Je suis Raphaël Privat, développeur depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus. À la base, je suis devenu développeur back-end, mais je voulais surtout être développeur. Je voulais coder des algorithmes qui manipulent des données, qui produisent un certain nombre de choses. Mais j'ai toujours été attiré plutôt par la machine, l'OS, les systèmes d'exploitation. D'ailleurs, je suis souvent un peu sysadmin à mes heures perdues. Je manipule Linux et tout. Donc, je pense que c'est ce qui m'a mis du côté back. C'est parce que je ne suis pas front, tout simplement. Je n'ai jamais trop aimé manipuler les interfaces, les graphismes, ce genre de choses. Je ne m'y connais pas, je ne suis pas particulièrement bon dans ce domaine. Mais par contre, j'aime beaucoup manipuler les données et dialoguer avec l'OS, interconnecter les systèmes. Parce qu'au final, c'est ce que fait un peu le développeur back-end, c'est faire une machine parler à l'autre, en général, souvent avec des calls d'API, REST, ce genre de choses. Et voilà, c'est ce qui me plaît.
Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter la première expérience ou situation, enfin, en tout cas, le premier souvenir qui t'a conduit à te dire, ben, ça, c'est ce que je veux faire. L'élément déclencheur, finalement, dit, ça, c'est je veux être développeur.
Ah, c'est une pas forcément longue histoire. À la base, je voulais être chimiste. Ce qui m'intéressait, c'était mélanger des produits. Alors, curieusement, ça ressemble un peu, je trouve, au métier de développeur, parce que ce que je voulais faire, ma mère étant biologiste, j'allais parfois, elle était pharmacienne puis biologiste, j'allais parfois avec elle au laboratoire, à la Ménard, et puis je voyais des machines qui mélangeaient des tubes, tout ça, ça faisait des choses, je trouvais ça assez extraordinaire. Et donc je voulais être chimiste, inventer des choses, inventer des produits, mélanger des produits pour que ça produise d'autres choses. Sauf que pour être chimiste, il faut avoir un labo, de beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, ce genre de choses. Et étant enfant, enfin, lycéen, j'ai rencontré des gars en première qui construisaient des jeux sur leur calculatrice. Je ne suis pas du tout...
Les fameuses TI.
Exactement. Alors, ma première, c'est une Casio, je sais plus, c'est une Casio graphique, mais avec un basique dessus, un peu moins évolué que celui de la TI. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, bien que je ne sois pas du tout gamer, je joue très rarement. Mais les gars, ils écrivaient des choses sur la calculatrice et ça produisait autre chose. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai harcelé ma mère pour pouvoir obtenir une TI 89 dans les mois. Et là, j'ai mangé le livre de la TI. J'ai même imprimé les 200 pages du manuel assembleur de la TI. Enfin, franchement, je me suis plongé dans ça à cours perdu. Je marchais dans la cour du lycée avec ma TI dans la main. Je suis devenu un geek, je crois, à partir de ce moment. Et voilà, et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial parce que sans laboratoire, un développeur peut créer. C'est très simple, en fait, surtout aujourd'hui, avec la quantité de how-to qu'il y a sur Internet. C'est très, très facile de prendre n'importe quelle machine, même un téléphone, et de se mettre à coder et d'inventer quelque chose, en fait. C'est ça, moi, le truc, c'est inventer. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et puis après, donc, première terminale où j'ai essentiellement codé sur ma TI et puis je me suis mis à faire un peu de Visual Basic.
C'était quoi le premier programme que tu as fait sur la TI?
C'était un petit jeu où, alors, c'était, comment dire, un jeu de course, en fait. Non, pas vraiment de course. Il fallait éviter des murs. Il y avait un Y qui figurait un petit vaisseau. Et il se déplaçait entre deux murs qui étaient juste en fait deux rangées de O, la lettre O. Et donc la TI dessinait à chaque. Il y avait une boucle infinie en fait. Et puis à chaque boucle, elle mettait deux O séparés d'un espace déterminé. Et il fallait réussir à garder le Y entre les deux O sans toucher les murs. Et comme il y avait dans la boucle, il y avait un paramètre aléatoire qui permettait de décaler les murs à gauche ou à droite. Donc ça faisait une route en fait. Et le Y se déplaçait entre les deux. Et voilà, fallait essayer de le garder entre les deux.
Et ce programme-là, tu l'as copié sur d'autres TI pour que tes copains puissent jouer aussi avec.
Non, parce que à la base, ce programme-là, alors ça m'a sûrement lancé dans l'open source aussi. Je ne l'ai pas inventé. Le jeu, il y avait un gars qui l'avait déjà fait. J'ai voulu le refaire. Donc j'ai volé entre guillemets son idée. J'ai copié son idée pour pouvoir le faire moi-même sur ma TI. Et par contre, le pro. Est-ce que j'ai inventé. Ah si, alors le tout premier jeu que j'ai inventé moi-même, c'était un simulateur de vol. Forcément, c'était sur une TI, donc c'était quelque chose de très très basique. Mais j'avais mis plein de paramètres d'essence, de vitesse, etc. Et ça ressemblait un peu au premier truc avec le Y qui se déplace entre les deux O. En fait, le but, c'était de réussir à faire décoller un avion. Alors l'avion, c'était deux tirets avec un X au milieu. Fallait réussir à le faire monter, rester en haut pendant une durée et redescendre, mais sans vider l'essence. Et puis fallait pas que la vitesse ait dépassé un certain niveau au moment de l'atterrissage. Enfin voilà, c'était pas du tout graphique. C'était des lettres partout dans tous les sens. Mais voilà, c'était un simulateur, quoi.
Finalement, on se rend compte que enfin, un développeur en soi, c'est aussi une part d'artistique, parce qu'il y a un côté de créativité
Mais
qui intervient.
complètement, c'est-à-dire que c'est de l'invention, c'est de l'inventivité, c'est le but c'est de trouver des solutions. Alors, la solution, ça peut sembler, et c'est technique, mais il y a toujours effectivement de la création, de l'inspiration dans la manière de trouver la solution et même de la mettre en œuvre. La solution qu'on va trouver peut être jolie, elle peut être élégante, ou bien ça peut être brute et ça peut être juste faire le taf sans se préoccuper de comment ça va ressortir. Oui, je trouve que il y a de l'artistique dedans. Il peut. Même en bac.
Et justement, alors le back-end, c'est quoi? Si on parle d'architecture web, de site web pour le coup, c'est quoi la partie back-end? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, le back-end, c'est la partie qui reçoit ce qui est envoyé par le front. Donc, le front, c'est ce que voit et c'est ce que touche le client, le navigateur en général. Sauf que le front en général, ce n'est souvent pas lui qui va effectuer les calculs, qui va sauvegarder en base de données, qui va modifier les données, etc. C'est le back qui va s'occuper de ça. Donc, le back reçoit les inputs du navigateur. Il fait ce qu'il faut avec. En général, il y a souvent d'autres services qui sont connectés sur le back. Donc, il va peut-être appeler une carte qui est sur un autre système de
Alors, le
e-commerce ou
cart,
bien
c'est le panier.
le panier, oui, pardon. appeler un système d'envoi d'email, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, il communique, le back communique avec plein d'autres systèmes, il compile un peu les données pour les mettre sous la forme souhaitée, les transformer et pour renvoyer ensuite au front ce qu'il est censé afficher. Donc, en fait, il ne se préoccupe pas effectivement de la manière dont les données seront affichées sur le front. Ce qu'il fait, c'est manipuler les données, les recevoir, les transformer, les renvoyer, essentiellement. Ou appeler d'autres services qui font la même chose.
Donc, une grosse partie de l'intelligence, finalement, elle est dans le back.
Alors, aujourd'hui, ça a tendance à changer, parce qu'effectivement, avec les gros frameworks JS, on essaie de mettre beaucoup d'intelligence dans le front, mais de manière générale, oui, l'intelligence de... Le front, ce sont les interfaces, et c'est le back qui va s'occuper, effectivement, de l'intelligence du programme, de la manipulation.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, finalement, on a avancé très vite, mais dans ton parcours, comment après, une fois que tu t'es dit, bah, ok, maintenant, moi, je veux être développeur, tu avais peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais pas, et comment tu y es arrivé concrètement, hein, finalement ?
Alors, d'abord, après mon bac, je suis parti à Toulouse faire un DUT informatique, parce que, pour moi, c'était ce qui me mettait le plus rapidement les mains dans le cambouis, quoi, dans le dev, quoi. Donc j'ai d'abord fait un DUT, et après mon DUT je suis rentré en Martinique faire une licence professionnelle, toujours pour pouvoir garder le côté technique en Martinique. Et quand j'étais en licence professionnelle à Shellshare, donc j'avais un prof qui travaillait pour une boîte immobilière qui m'a recruté, entre guillemets, à la fin de ma licence pour travailler avec dans cette boîte immobilière. Donc, je suis devenu développeur web. Donc là, je faisais à peu près tout, du front, du back, je faisais des interfaces pas jolies. J'ai fait rentrer ensuite un copain graphiste qui, lui, m'a permis de me séparer de cette histoire d'inventer des interfaces pas jolies. Moi, je codais ce que lui produisait. Donc, c'était beaucoup plus simple et beaucoup mieux pour moi. Ça me permettait de rester... Alors, je faisais toujours du front parce que je devais coder l'interface, mais c'était plus moi qui la designais, quoi. Donc, c'était bien plus agréable. Et voilà. Et ensuite, alors, je suis resté une dizaine d'années. Ensuite, on a traversé quelques turbulences. Du coup, j'ai été licencié économiquement, mais ça m'a permis de monter ma boîte et de me mettre au service de diverses autres entreprises pour faire la même chose. Et j'en ai profité aussi pour vendre mes services de sysadmin parce que j'aime beaucoup le système d'exploitation Linux. Que je manipule souvent, enfin au quotidien même, puisque c'est mon OS de tous les jours, et donc pour vendre des prestations de sysadmin.
Ok. Et quel est ton plus beau souvenir ou accomplissement professionnel jusqu'alors ? Mm-hmm. C'est le plus fier, ouais.
C'est une question difficile. Professionnel ? Je ne sais pas. Il aurait fallu que je réfléchisse un peu à la question.
Ou personnel, du coup.
Alors, qu'est-ce que j'ai... Il y a des... Ce que j'ai codé... Ouais, j'avais codé un système de gestion de base électronique, de documents électroniques, un système de GED, dont je suis encore très fier. Il tourne encore, d'ailleurs, chez le client, et qui était assez complexe. Alors, pareil, j'ai fait l'interface. L'interface n'est pas jolie. Mais ça fonctionne super bien parce que c'était interconnecté un système Redmine. On avait utilisé le wiki de Redmine pour pouvoir stocker les documents. Mais dedans, j'avais créé un système de balisage pour pouvoir créer des champs avec la syntaxe de Redmine pour que ça puisse s'afficher dans le client, que les collaborateurs puissent ensuite remplir les champs. Que ça génère un PDF, qu'ensuite on envoie le PDF chez un fournisseur de signature électronique. Et je trouvais ça, je me suis éclaté dans ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et dernièrement, j'en ai fait un autre que je trouve aussi bien fait, c'est un système d'organigramme du personnel qui est toujours basé sur Redmine d'ailleurs.
Et... Alors c'est quoi Redmine en fait pour le coup, pour les autres ?
Redmine c'est juste un gestionnaire de projet en fait, donc c'est un système de gestion de tickets.
Okay.
Sauf que s'il est très facilement extensible avec des champs PSO, ce genre de choses. Donc, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. C'est presque un... Non, c'est pas un groupware, mais... Il est très, très extensible. Et okay. Donc, à partir de ça, on a créé toute une arborescence de... d'un organigramme du personnel, sauf qu'on voulait que ça soit dynamique. Et donc, ma dernière création, ça a été de récupérer tous ces tickets qui comportent les noms, prénoms des employés, ce genre de choses, mais avec des tâches, des sous-tâches, des tickets liés pour savoir est-ce que le contrat est un contrat salarié ou un contrat prestataire, ce genre, enfin, beaucoup de data, compiler tout ça et pouvoir le renvoyer au front pour que, avec une librairie JavaScript, pouvoir tracer un joli graphe avec des nœuds qui peuvent okay. se brancher, se débrancher et refactorer le graphe. Je trouve ça assez bien. J'ai beaucoup travaillé dessus.
Et est-ce que des outils comme ça, tu t'es pas dit à un moment donné, il faut que je crée un produit là-dessus, basé là-dessus, pour pouvoir le revendre, pourquoi pas, dans le futur ?
Alors, je me le dis tout le temps. Je me le dis tout le temps. On est souvent un peu pris dans le quotidien parce qu'effectivement, vendre un produit, c'est une étape supplémentaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si je pourrais vendre un produit et continuer à coder les produits des autres en même temps parce qu'il faudrait vraiment que je me consacre à ça. Il y a toute la partie que je ne maîtrise pas de la commercialisation, de la communication, qui sont des choses que je ne connais pas ou que je connais peu. Et du coup, ouais, en fait... ça me demanderait de mettre beaucoup de choses de côté. Donc, j'y pense à chaque fois que je fais quelque chose d'intéressant, oui, que forcément, il y a quelqu'un qui doit avoir le même besoin et qui aimerait bien pouvoir souffrir cette solution. Et je n'abandonne pas l'idée de vendre un jour un produit que j'aurais codé et que je trouve particulièrement intéressant. J'en ai divers dans mes classeurs, oui.
Ça, c'est la quête du million, finalement.
Du million ou simplement le plaisir d'avoir réussi à vendre, parce que je vends mes prestations quotidiennement, donc je sais que je rends service à diverses entreprises, mais le fait de pouvoir vendre à des gens qui ne l'ont pas forcément encore demandé, c'est-à-dire qu'ils découvrent quelque chose et puis ils se disent wow, ce truc-là, j'aurais bien aimé le mettre dans mon système d'information. C'est un peu différent de répondre à un devis, ou enfin, de répondre à une demande de quelqu'un qui te dit « Bon, ben, je voudrais faire ça, est-ce que tu peux me le coder ?» La démarche de dire « J'ai un produit, est-ce que ce produit vous intéresse pour l'intégrer dans votre système d'information ?» Je trouve ça valorisant, quoi. C'est un peu différent.
Moi, je voulais revenir sur un point qui est vachement important, c'est que... Toi, tu as dit effectivement que toi, tu vas créer des choses, créer des algorithmes notamment, concevoir des choses, que tu peux concevoir des interfaces, mais que pour pouvoir passer à l'étape d'après et rendre la chose un peu plus jolie, ben, il faut s'aider de d'autres compétences
oui.
qui sont notamment graphiques ou...
Ah mais complètement, c'est-à-dire que c'est... Alors, tout à l'heure, on a parlé d'artistique, même si ce que je fais a quelque chose d'artistique, mais je ne fais pas du visuel. Et... C'est un métier, ce sont des compétences que je n'ai pas. Je suis capable de dire, en voyant une interface, est-ce qu'elle est jolie ou en l'utilisant, est-ce qu'elle sera pratique pour l'utilisateur. Mais la concevoir, c'est un autre step, c'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, surtout quand on est en train de coder son programme, on a tendance à... Comme on sait ce qu'on fait, on ne perçoit pas parfois les incohérences du design, de l'UX et se dire ah, ouais mais l'utilisateur qui est devant il va pas penser comme toi, il va pas réaliser que ce bouton là permet de déclencher telle action, toi tu le sais parce que c'est toi qui l'as codé. Et donc ça c'est le boulot du graphiste et des spécialistes de l'UX et ce n'est pas le mien quoi. Donc c'est sûr que si c'est moi qui le fais, je risque, ça va fonctionner. Mais ça ne sera pas intuitif, ça risque de ne pas être intuitif. Donc c'est mieux, oui, d'avoir quelqu'un qui peut penser. De toutes les façons, il est préférable d'avoir quelqu'un qui n'est pas en train de coder le logiciel pour pouvoir concevoir l'interface. Parce que quand on est plongé dans le logiciel, on ne pense pas comme un client.
Et ça, on se rend compte que ça, c'est le cas dans beaucoup de domaines. Quand on est immergé dans quelque chose, on n'a pas le recul
Exactement.
nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Exactement.
Et encore plus où finalement, quand on crée des produits, notamment web, où là, en fait, le client, le client final, c'est le monde entier potentiellement. Il y en a des millions, en fait. Il y a des millions de typologies de clients. Et le travail de l'UX, pour le coup, c'est de se dire, ben, par rapport à nos cibles prioritaires, concevons une interface qui est la plus adaptée par rapport à nos cibles et à ceux qui vont utiliser l'interface, pour le coup.
Exactement. Tu as dit le mot, c'est le mot recul en fait. On ne peut pas, en étant en train de coder le logiciel, avoir le recul nécessaire pour penser, comme tu as dit, aux millions de personnes qui vont arriver, s'asseoir devant vont devoir comprendre comment ça marche, quoi. Nous, parce que nous, on sait déjà comment ça marche. Du coup, on n'a pas la vision du novice qui s'assoit devant et qui doit comprendre sur l'instant ce que ça doit faire, quoi. Donc oui, il faut quelqu'un qui a le recul.
Alors, j'ai abordé le sujet donc du projet dans lequel tu es le plus fier. Et si on devait parler de celui qui t'a le plus, on va dire, le plus mauvais souvenir en fait, finalement, en tant que développeur que tu as eu.
J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Alors, par contre, j'ai fait des conneries, forcément. Parce que quand j'ai commencé, je sortais de ma licence. Ben là, j'ai des logiciels qui sont toujours en train de tourner chez certains clients. Ils fonctionnent, mais c'était des mauvais. C'était mal codé. C'est-à-dire que le code est crade, quoi. C'est un code d'étudiant. Alors, ça marche, mais ça pourrait fonctionner bien mieux. Parfois, ce n'est pas du tout optimisé. Parfois, c'est lent ou il peut y avoir des failles. C'est-à-dire que je ne pense pas. Est-ce qu'il y a ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a de mauvais logiciels? Oui, il y a sûrement de mauvais logiciels, mais pour dire que j'en ai honte, non, parce que ça, j'apprenais, c'était nouveau, je découvrais. Et je me suis amélioré avec le temps, donc j'ai sûrement dû coder à l'époque des choses qui n'étaient pas jolies. Et en vérité, je vais encore coder des choses qui ne sont pas jolies parce on fait du web. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouvelle techno qui sort. Et même quand on code dans des technos qui sont éprouvés, qu'on connaît depuis des années, même ceux qui font du C, il n'y a aucun moyen qu'un développeur vienne nous dire qu'il a codé sans bug. Ça n'existe pas. On écrit pour chaque logiciel plusieurs centaines de lignes. Bon, alors, il y a les tests, bien sûr, qui permettent de se prémunir d'un gros nombre de bugs, mais on peut toujours laisser passer des choses. Donc, le logiciel sans bug n'existe pas. C'est pas pour rien qu'il y a des pirates qui arrivent à percer absolument tous les logiciels. Donc, pour en revenir à la question, mon plus mauvais souvenir. Je pense que c'est le jour où j'ai effacé une base de données de prod. Je pense que c'est le mauvais souvenir de beaucoup de devs et de sysadmins, c'est de lancer la requête sur la mauvaise table, la mauvaise base, te rendre compte que tu n'étais pas sur la base de test, mais que tu étais sur la base de prod, et puis tu as supprimé tous les clients, tous les utilisateurs du client, et puis que pouf, là, en quelques secondes, le site est complètement planté, les gens ne retrouvent plus leurs écritures, qu'est-ce qui se passe, on peut plus rien vendre, la boîte est plantée, quoi, tu plantes la boîte. Mais c'est pour ça qu'il y a les backups, donc il faut essayer d'expliquer au client que, oups, j'ai fait une grosse bêtise, mais ne bougez pas, donnez-moi 15 minutes et je remets tout d'équerre.
Mais c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, le point que tu abordes, c'est un peu le point du service après-vente ou de l'assurance. C'est-à-dire que aussi convaincre les clients de dire, bah, OK, vous avez acheté une solution ou vous avez acheté un service, on va développer quelque chose, mais il faut continuer à investir dedans pour pouvoir avoir, le cas échéant, un backup ou quelqu'un qui est là pour intervenir, pour remettre tout en état s'il se passe quelque chose. Là, c'est toi qui as fait l'erreur pour le coup, mais il y a quelques mois, il y a eu un incendie donc chez OVH. Et là, en fait, si eux, ils sont pas outillés, c'est vraiment problématique.
Je crois que c'est Bill Gates qui a dit que l'erreur est humaine, mais que pour un vrai désastre, il faut un ordinateur. Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que l'erreur arrivera. L'erreur ou le bug, puisque dans l'exemple d'OVH, on peut considérer qu'il y avait une erreur de leur côté, mais c'est-à-dire que la merde va arriver, quoi. Et forcément, il faut s'en prémunir. Alors que ça soit une perte de données ou Parfois, le problème ne se situe même pas au niveau du logiciel qui a été fourni. Ça peut être carrément le système d'exploitation sur lequel est hébergé le site qui peut se faire percer parce qu'on découvre des failles, il y a des 0D qui sortent tous les jours. Donc, il faut un produit, il s'accompagne, oui. Il faut s'attendre à devoir le faire évoluer, à parfois le patcher, c'est-à-dire boucher des trous parce qu'on s'est rendu compte que telle librairie avait une faille. Ou bien, ce dont on parlait tout à l'heure, un problème de base de données, le serveur qui meurt, les backups, enfin voilà, oui, il y a beaucoup d'à côté. Il suffit pas juste de coder, livrer, et puis on laisse tourner, quoi. Il y a toute une étape, oui, d'accompagnement du logiciel et d'évolution. En général, un logiciel, c'est comme ça qu'on. Enfin, c'est un début de mesure de la qualité d'un logiciel. Quand on cherche un soft ou un framework, on regarde de quand date le dernier commit, tu vois. Si je regarde que j'ai besoin de choisir un framework, mais que je vois qu'il n'y a eu aucun code qui a été poussé dessus depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est un logiciel qui est mort. Parce qu'il n'y a pas de logiciel qui n'a pas besoin d'évoluer. Ça n'existe pas.
Alors, le commit, finalement, c'est
C'est un bout de
un bout de
code.
code qui a été envoyé sur un système de gestion de version, pour
Voilà.
le coup, à un moment donné. Donc, quand on se rend compte, effectivement, qu'il n'y a pas eu de mise à jour du code pendant des mois, on se rend compte que le gel, il n'est plus maintenu
C'est ça.
et
Il est
que...
plus maintenu, c'est le mot. Et donc, ce qu'il est sûrement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des failles. Un logiciel qui n'est plus maintenu, il aura des failles.
Alors, pour le coup, dans tout ça... Qu'est-ce qui t'a te provoqué du plaisir dans ce que tu fais au quotidien?
Alors, là aussi, c'est un peu difficile. J'aime ce que je fais, mais quoi spécifiquement?
Quand tu codes, quand tu fais un algorithme, quand tu trouves une solution, quand...
Ouais, trouver une solution, c'est le pire. C'est un peu bête à dire, mais quand c'est quelque chose qui arrive assez souvent de rester bloqué des heures, le truc ça marche pas, je comprends pas, j'ai tout vérifié, etc. Et puis tu comprends l'erreur que tu as faite. C'est une jouissance de réussir à débugger. Débugger, c'est cool, j'aime ça, j'aime bien débugger ce qui marche pas. Après, trouver une solution que je trouve élégante aussi. J'aime bien un algo qui fait les choses différemment, quoi. On n'aurait pas pensé à le faire comme ça. Et puis je me dis, ah ben ouais, c'est cool. Mais de manière générale, moi, j'aime bien être assis devant mon PC. Mais puis coder, quoi. Je sais pas, je suis dans ma bulle, je mets la bande originale de Game of Thrones et puis je code. Je sais pas, je suis dans mon petit monde, je cherche des solutions.
Moi, j'ai des images de développeurs qui dans des open space qui carrément qui crient, qui expriment leur joie quand ils ont
Oui,
trouvé une solution, un bug ou un truc. C'est
non, mais oui, c'est jouissif quand on a trouvé la solution. Ouais.
voilà. Alors, ce qui est important à retenir pour moi là-dessus, c'est de dire que enfin les développeurs, qu'ils soient front, qu'ils soient back, enfin quel soit le développeur, lui, son objectif, c'est trouver la solution et pouvoir atteindre cette jouissance dont tu parles là. Et c'est
Le
vraiment ça qui caractérise les développeurs.
code ne fait que ça en vrai. Il n'est là. La seule chose qu'on lui demande, c'est de. On nous apporte un problème. Bon, ben trouve la solution. Moi, j'ai besoin de faire rentrer telle donnée, ensuite de la tourner de telle manière à ce qu'elle me renvoie telle autre donnée. Bon, ben débrouille-toi et donne-moi le. Fais sortir le truc, quoi. Tu vois. On est des trouveurs de solutions en vrai. Pour moi, oui. On pourrait résumer le code à trouver des solutions. Oui.
Alors, aujourd'hui, où es-tu? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes futurs projets, au niveau professionnel?
Alors, où je suis là? Je suis à Fonzombie, en Martinique, parce que je suis rentré pour 2 mois pour voir la famille, parce que depuis 2 ans, je vis à Montréal. Je vis à Montréal parce que mon épouse a trouvé du taf là-bas, et moi-même, je trouvais ça intéressant d'aller là-bas, tâter un peu le marché québécois. Donc, je suis là-bas, je cherche des clients québécois pour leur proposer mes services. Il y en a pas mal, mais je continue aussi à travailler pour mes clients ici, en Martinique. Et mes projets, alors, si ma femme m'entendait, elle dirait que j'en ai trop. Parce que effectivement, j'ai toujours un milliard d'idées en tête, de trucs que j'ai envie de faire, que je voudrais faire. Chaque matin, je me lève avec une nouvelle idée. Du coup, j'ai beaucoup trop de projets pour pouvoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais ce que je sais faire. Je vends mes services et j'attends le jour où je vais trouver la bonne idée, où je me dis, bon, celle-là, là, je la tiens, là, je vais pas la lâcher, et je vais essayer de vendre ça. Ouais.
Ok. Et si on devait te joindre, on peut te trouver où?
rpr@pvl.io. C'est simplement
Donc,
par email.
rpr@privilog.io.
Non, c'est pvl.io, ou sinon ça marche avec privilog.com. Donc.
Ok, d'accord. Raphaël, merci beaucoup.
C'est moi.
Et à très vite.
Ok, à bientôt.
Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour que l'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.